Merci beaucoup les musiciens, Dieu vous bénisse. Vous allez tous bien aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Vous savez, quand on étudie l'histoire des croyances populaires, on s'aperçoit que de tout temps et partout dans toutes les civilisations, les êtres humains ont instinctivement l'idée qu'il y a une puissance supérieure qui permet de changer les choses, guérir les gens, transformer les situations. Et les gens, autrefois, croyaient que cette puissance pouvait être invoquée dans certaines conditions et que des miracles pouvaient intervenir. On trouve ça dans toutes les civilisations. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient comme cela. Mais par exemple, quand je vais en Afrique, eh bien, je rencontre des gens qui prétendent avoir le pouvoir d'influencer secrètement avec des formules magiques et des poudres, des trucs, enfin, voilà, qui peuvent influencer les gens en bien ou en mal, même qui prétendent. Oh, c'est quoi ce truc qu'on entend?
C'est le chien.
Ah, c'est le chien. Ils disent qu'ils peuvent influencer en bien ou en mal, ils disent même qu'ils peuvent faire mourir des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ces gens qu'on appelle généralement donc des sorciers. En Europe, on appelle les gens qui ont de tels pouvoirs des guérisseurs, des jeteurs de sorts, des coupeurs de feu, des mages, ou alors de saintes personnes. Voilà. Alors, que ce soit en Afrique, que ce soit en Orient, que ce soit en Europe, en fait, les processus de guérison et de miracles varient. Alors, ça prend toutes sortes de formes. Vous savez, ceux qui font des supplications à Dieu, à un Dieu, ou qui imposent les mains. Moi, je me rappelle quand je me suis converti et que j'ai vu Raphaël imposer les mains aux malades. Ma première réaction, c'est « Ah, c'est un guérisseur ». Parce que dans la pensée collective en Suisse, c'était que les guérisseurs qui imposaient les mains. Les pasteurs protestants n'imposaient pas les mains. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant, mais enfin, à l'époque, ils imposaient. Il y avait que les guérisseurs qui faisaient ça à l'époque. L'imposition des mains, pourtant, c'est biblique. Hein. Jésus dit qu'il faut imposer les mains malades. Alors, dans d'autres processus, il y a des incantations, des mantras, des applications d'amulettes, de talismans. Vous avez des gens qui ont des bagues spéciales magiques. Moi, on m'a accusé d'avoir une bague magique. C'est pas une bague magique, c'est mon alliance. J'ai deux alliances. J'ai une alliance pour mon mariage que nous avons eu. Nous allons le fêter demain, notre mariage en 1964, 8 juin. Et puis, ça, c'est le mariage que nous avons célébré pour l'éternité. Donc je porte deux alliances, c'est pas une bague magique. Hein? Voilà, mais vous avez des gens, quand ils voient un homme avec des bagues, qui prie pour les malades et puis qui est guérison, tout de suite ils disent oh, c'est rien de la bague. Mais on me l'a dit souvent, hein? On me l'a dit souvent, bêtise. Mais vous avez des gens qui vendent des bagues magiques pour soi-disant. Vous avez des. Il y a d'autres processus, il y a les reliques, il y a les images, enfin il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens qui donnent des drogues, les sorciers d'Afrique qui fabriquent des poudres, des machins, à base de cochonneries. Vraiment. C'est moche leur magie à eux là-bas, c'est très vilain. C'est un peu comme au Moyen-Âge ici en France, du temps de Jacouille la Fripouille, des potions magiques qui ne sont pas bonnes. Remarquez, les médicaments, les drogues que nous donnent les médecins en général, ce n'est pas bon. Moi, je me rappelle, je ne sais plus ce que j'avais comme maladie, puis le médecin me dit voilà, il y a tes médicaments. Je lui dis il est bon votre médicament, ce n'est pas possible, ça ne veut pas faire du bien, il est bon, il a un bon goût. On aime bien quand un médicament est un peu amer, on s'imagine qu'il est plus efficace. Enfin, moi, c'est moi. Hein. J'imaginais quand j'étais plus jeune que c'était plus efficace. Et puis, vous avez donc, maintenant, il y a beaucoup de la chimie. Hein. la magie des blancs, comme ils disent les Africains. Vous avez des gens, enfin, pas tous les Africains, mais vous avez des gens qui utilisent l'hypnose. Il faut savoir que dans certains hôpitaux, en Europe, en Amérique, on opère sous hypnose, on ne fait plus de comment on appelle ça, on n'endort plus les gens, on ne les anesthésie plus, on les hypnotise. Même vous allez chez le dentiste, il y a certains dentistes qui vous hypnotisent. Moi je voudrais beaucoup qu'on m'hypnotise pour aller trifouiller mes dents déjà. Rien que quand je vois l'appareillage, j'ai mal. Mais bon, vous avez ça marche sur certaines personnes. Certaines personnes sont guéries aussi en prenant ce qu'on appelle des médicaments placebo, c'est-à-dire que on leur dit que c'est un médicament, mais c'est pas un médicament, c'est juste un truc qui est une forme de médicament, mais c'est juste un peu de sucre, puis de farine, de rien du tout. Mais ça peut les guérir parce qu'ils croient que c'est un cachet qui va les guérir, qui va même leur enlever la douleur et toute cette sorte de méthodes. Il y a plein de méthodes qui sont utilisées pour soulager la souffrance humaine, parce que la souffrance humaine est quelque chose de terrible. Alors, moi je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un hypnotiseur, je ne suis pas un médecin, je suis un pasteur chrétien. Voilà, donc j'ai mon vocabulaire, comme les médecins ont le leur. Donc on va chercher à aider les gens. Mais les méthodes sont différentes. Alors, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas contre, par exemple, je ne suis pas du tout contre la transfusion de sang, ni contre la chirurgie, ni contre les vaccins. Maintenant, c'est la grande mode, ceux qui sont contre les vaccins. Ni contre la chimio, ni contre la radiothérapie, ni contre les chiropracteurs. D'ailleurs, je vais aller en voir cette semaine, c'est autrefois on disait que c'était rebouteux, puis ça avait un goût un peu diabolique, mais c'est une science, il faut faire des années d'études pour être un chiropracteur reconnu. Donc je suis un homme normal du 21e siècle, et voilà. Maintenant je ne dis pas que vous êtes anormal si vous êtes anti-vaccin, mais bon, je trouve que c'est quand même un petit peu bizarre. D'écouter les complotistes qui voient des choses un peu bizarres. En fait, je ne suis contre qu'une chose, contre ce que la Bible interdit. Par exemple, la sorcellerie, les gris-gris, les amulettes, catholiques ou autres, les talismans, les images taillées ou pas, les photos, les machins, les scapulaires. Enfin, parce que je sais quelle sorte d'esprit se cache derrière. Quelle sorte de puissance se cache derrière. Et en tant qu'homme moderne du 21e siècle, je fais confiance à la médecine, quoique ce qu'on entend en ce moment, c'est quand même terrible de voir que vous avez 4 sommités de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, qui ont dit que la chloroquine, machin, c'était vraiment mauvais, nuisible, et qu'il fallait l'interdire. Et ils étaient donc contre le professeur Raoult. Et puis quelques jours après, 3 d'entre eux, c'est quand même beaucoup, je dirais 4, hein, 3 d'entre eux ont dit non, c'est pas vrai, finalement voilà. Il y a certainement eu des enveloppes, n'est-ce pas, qui ont été données et qui ont fait que ces 4 sommités ont dit que la chloroquine, parce que elle, ça coûte rien, ça coûte 10 centimes le cachet. Alors les fabricants de médicaments veulent vendre des choses, si possible, chères. Donc, j'aime beaucoup la médecine, mais je ne suis pas un idiot non plus. Je me rends bien compte que il y a de la corruption aussi dans ce milieu-là. Et, par exemple, moi, je préfère écouter un médecin qui a un bagage pratique et intellectuel, et pour ne pas le nommer, comme par exemple le professeur Raoult. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, puis ça m'est égal ce que vous en pensez, j'ai le droit de penser, vous avez le droit de penser, mais moi je l'aime bien le professeur Raoult. D'ailleurs, je vais me laisser pousser les cheveux. Et la barbe et la moustache. Bon. En tant qu'homme moderne, voilà, mais aussi en tant que pasteur, en tant que croyant en Jésus-Christ, je crois dans les miracles, et je n'ai pas besoin de faire mes preuves. Ça fait depuis 68 que mon ministère est accompagné par des miracles. Mais alors, Que nous dit la Bible au sujet des miracles? Eh bien, on va lire quelques textes ce matin. On va lire Marc chapitre 11, verset 24. Pour commencer, Marc 11, verset 24. Jésus qui parle, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Amen. Alors, est-ce que vous avez remarqué l'utilisation des temps pour les verbes dans cette phrase? Ce que vous demandez au présent, croyez que vous l'avez reçu au présent, et cela vous sera accordé au futur. Mais vous devez croire avant de voir. Jésus nous dit de demander, de croire, d'accepter comme vrai le fait que notre prière a déjà été exaucée avant d'en voir l'accomplissement. Voilà ce que Jésus nous demande. Et que la réalisation va suivre dans l'avenir. Le succès de la prière exaucée, il se trouve là, mes frères et sœurs. Jésus, je te prie pour que mes frères et sœurs comprennent bien ces choses-là. Je sais que tu as dit en son temps, ne dites pas ça, ne parlez pas de ça, je vous interdis d'en parler. Il a dit ça aux aveugles qui avaient recouvré la vue. Mais maintenant, toutes choses doivent être révélées et nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses et les gens doivent savoir, les gens de ton peuple. Et c'est pourquoi je te prie pour ton peuple, afin qu'ils apprennent et qu'ils fassent comme toi tu faisais, au nom de Jésus. Amen. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'incroyants qui viennent écouter mes sermons, donc ils n'apprendront rien du tout aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas là. En général, ils lisent, les incroyants, ils lisent ce que j'écris en préambule, et puis ils m'envoient des insultes et des menaces, mais ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas le temps à perdre avec un pasteur qui radote, n'est-ce pas? Donc on est entre nous, on est entre croyants, entre personnes qui veulent être initiées par notre maître, Jésus. En fait, ce que Jésus nous donne là, c'est une technique. J'emploie un mot spécial, technique. Je pourrais dire aussi c'est une loi, c'est une technique. Et le succès dépend de la conviction que vous y mettez. Il faut admettre que nous avons reçu avant d'avoir reçu. Ça, c'est fort. Ça signifie que dans votre pensée, l'idée, l'image que vous demandez, c'est une réalité qui existe, qui est présente, qui est réelle aux yeux de Dieu, aussi réelle que ce pupitre. Il en tient compte. Il faut que vous pensiez une chose et que vous gardiez cette chose dans votre esprit parce qu'elle a une puissance, cette pensée. Vous devez penser que vous l'avez déjà. Pour que quelque chose ait substance sur le plan de l'esprit, il faut que la pensée l'accepte, la chose, comme existant là et maintenant, pas dans le futur. Il faut qu'elle l'accepte comme existant maintenant, là, tout de suite. Croyez que vous l'avez reçu. L'autre jour, j'attendais ma voiture. Je vais aller chercher ma voiture au garage le vendredi. Et elle arrive au garage, comme convenu, et le bonhomme me dit, écoutez, il y a un problème. Alors je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je croyais tellement que j'avais reçu, je me réjouissais comme un petit fou, parce que j'aime bien changer de voiture. Et puis, cette joie, je l'ai eue le lendemain. Mais croire qu'on l'a reçu, quand on croit qu'on a reçu quelque chose, on se réjouit, non? Puis si ça tarde un peu, on continue à se jouir jusqu'à ce qu'on l'ait. Et le lendemain, ben la voiture était prête. Le truc qu'il y avait, c'est que ils avaient, c'est tout bête, ils n'avaient plus le produit, vous savez, ils n'avaient plus assez de produit pour enlever la colle, c'est qu'ils mettent toujours un plastique de protection sur les voitures neuves, et puis ils avaient enlevé partout, sauf il leur manquait un peu de produit, ils ont dû faire venir quelqu'un de Montauban pour finir le travail. C'était rigolo. Puis Dieu, il s'amuse avec moi parce qu'il sait que je ne suis pas patient. et tout. Mais savoir se réjouir à la quand on a demandé quelque chose, quand on attend quelque chose, il faut croire qu'on l'a reçu avant de le voir, même si ça dure un peu. Et ça, ça concerne tout, pas seulement la guérison, mais tout ce que vous désirez. Votre idée, votre projet, votre plan, c'est aussi réel sur le plan de l'esprit que le son, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous pouvez toucher dans le domaine de la matière. Ce qui est de l'esprit, c'est pas un truc comme des nuages qui changent sans arrêt de forme, voilà, c'est bizarre. C'est... Non, il y a des lois de l'esprit, c'est pour ça que je parle de technique. Ce que Jésus veut, c'est que nous éliminions complètement de notre esprit toute considération de conditions. Par exemple, vous avez des gens qui disent « Oui, est-ce que Dieu peut vraiment me donner ça? J'ai tellement péché. » Vous comprenez ? Il veut que vous enleviez de votre esprit complètement toute considération de conditions ou de circonstances. Oui, mais c'est pas possible maintenant parce que il faudrait que j'ai plus d'argent ou je sais pas. Vous comprenez? Il faut que vous ayez, Jésus veut que vous éliminiez complètement de votre esprit toute considération de conditions, de circonstances, toute contingence adverse. C'est-à-dire que vous ne croyez pas qu'il va y avoir une opposition diabolique, ou qu'il y a des gens mal intentionnés qui travaillent sur vous avec du vaudou, je ne sais pas quoi, pour empêcher, n'est-ce pas, la vérité. Dieu est tout puissant. Le reste, c'est rien. Si seulement vous croyez, si vous croyez que c'est important, et que le diable peut s'opposer à vos prières, bon ben voilà. Moi, je crois ce que la Bible dit, et je veux éliminer de mon esprit toutes ces considérations. Ce que Jésus veut, c'est que vous plantiez dans votre esprit une semence, la chose que vous voulez, et il dit que si vous ne dérangez pas cette semence, elle va fructifier, elle va donner un fruit. On est une semence. Mais il y a vraiment... Est-ce qu'il n'aurait pas le Covid, ce chien? On est nous-mêmes une semence. Tout est une semence. Tout vient d'une idée au départ. Ce pupitre que j'ai devant moi, quelqu'un l'a pensé avant de le faire. Il s'est pas levé un matin en prenant des bouts de bois et des trucs et des machins. Et puis là, tiens, je fais un joli pupitre. Non, on pense les choses. La pensée, c'est quelque chose qui entre en nous, qu'on accepte et puis qu'on manifeste. Donc, une semence, une chose que vous voulez, il ne faut pas la déranger. Quand vous l'avez mis en vous, il ne faut pas la déranger. Il ne faut pas les gratouiller pour voir si ça pousse. Vous la laissez en vous. Trop de prières sont faites avec de la foi mêlée de doute, de peur. Ah, mais peut-être que je ne mérite pas ce que je demande, j'ai peut-être trop péché, ça c'est en général, c'est ça le problème. Ou alors vous avez les humbles qui disent, oui, mais Dieu a d'autres problèmes à résoudre que mes prières, Dieu a d'autres choses à faire que de s'occuper de moi, je ne veux pas le déranger, ça c'est vraiment, c'est de l'orgueil de penser comme ça. Parce que c'est une espèce de fausse humilité, c'est pas toujours très conscient, mais c'est, en fait c'est une forme d'orgueil. Ou alors il y en a qui disent, le diable est tellement méchant, il va s'interposer entre Dieu et ma prière, et je vais rien recevoir, et puis il y a des gens, vous savez, les gens sont tellement méchants. Je suis sûr que la sœur Intel là-bas, qui a une drôle de tête et puis une bague spéciale, elle va faire des invocations pour que ma prière... Vous voyez, il faut pas déranger ce que vous avez mis dans votre esprit avec des pensées stupides comme ça. Il ne faut pas. Bref, des pensées qui dérangent ce que vous avez planté en vous, il y en a une multitude. Je ne veux pas tout vous énumérer, mais il y en a une multitude. Vous voyez, la première condition sur laquelle Jésus insiste, c'est la foi. À maintes reprises, vous lirez dans la Bible, qu'il en soit fait selon ta foi. Il en est fait selon ta foi. Plein de fois, c'est écrit ça. Sur le plan matériel, si vous plantez dans la terre une certaine graine, vous êtes sûr qu'elle va produire selon son espèce. Si vous plantez Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Pour... Qu'est-ce que...
Des melons.
Hein ?
Des melons.
Des melons, c'est la région ici. Alors, vous avez le paysan qui va planter ses melons. Et quelques mois après, il revient et dit « Ah, ben, c'est bizarre, c'est des bananes qui poussent. » C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. C'est toujours selon la nature de ce qu'on a planté. D'accord ? Donc, arrosez bien, oui, ça c'est sûr, avec des prières, c'est sûr, ce que vous avez mis en vous, mais ne le dérangez pas. Mais c'est une loi, c'est un principe, c'est une technique. Et sur le plan de l'esprit, c'est ce qu'on appelle avoir la foi, la loi de la foi. C'est la loi des semences. Vous savez que la première loi qu'on trouve dans la Bible, c'est quand Dieu a dit « Tu ne mangeras pas, tu ne consommeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais la deuxième loi, est-ce que vous la connaissez ? Une deuxième loi, on l'appelle la loi noaïque. Elle se trouve dans Genèse 8, 22, je lis, jusqu'à 9, 7. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle, c'est juste après le déluge. Il dit « Je ne ferai plus jamais ça. » Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, etc., etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire, vous avez des bibles, vous pouvez lire. Mais la première chose que Dieu dit juste après le déluge, c'est la chose la plus importante, puisque c'est la première chose qu'il dit. C'est la loi de la semence. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Il ne pensait pas qu'au blé, à l'orge ou au melon, parce qu'il sait très bien que nous sommes nous-mêmes des semences. Notre foi doit être basée sur cette loi noaïque, la loi qui a été donnée à Noé, la loi de la semence et de la moisson. Ce que tu sèmes, tu le récoltes selon l'espèce de ce que tu as semé. Et tu récoltes toujours davantage que ce que tu as semé. C'est pourquoi dans Éphésiens 3, 20, il nous est dit que Dieu va au-delà de ce que vous pensez et que vous demandez dans vos prières. Parce qu'on récolte toujours plus de ce qu'on a pensé. Hein? Regardez, par exemple, Eric et Mélodie, ils voulaient un chalet. Mais est-ce que vous imaginez que ça serait aussi beau? C'est magnifique, c'est sublissime. C'est encore pas fini, mais rien que de voir ça comme ça, c'est waouh! Je disais aux gens, regardez comme ça, il est beau. Il faut quand même mettre en toi. Hein. La foi, c'est une manière de penser, c'est une attitude spirituelle, c'est une certitude intérieure. La foi, ça vous permet de savoir que l'idée que vous avez accepté pleinement comme vrai dans votre pensée, que c'est une semence qui va prendre corps dans le monde matériel. Cette pensée, c'est une semence qui va se manifester. Tout est semence. En vérité, la foi, c'est le fait d'accepter pour vrai ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit ? Tout est possible à celui qui croit. Alors, vous voyez, c'est géant. La foi, c'est d'accepter ce que, pour vrai ce que Dieu dit. Et que votre raison et vos sens nient. C'est là que les incroyants nous jugent et nous critiquent. Ils disent, vous êtes des idiots, vous ne raisonnez pas, vous ne réfléchissez pas. Et on s'en fout ce qu'ils pensent, les incroyants. Nous, on est des croyants. Hein? Ils croient comme ils veulent. Ils sont entre eux, ils sont contents comme ça. Et nous, on est des croyants. On croit ce que Dieu dit. Voilà. La foi, c'est fermer la porte à votre intelligence rationnelle et analytique pour embrasser l'attitude confiante que Dieu, s'il l'a dit, eh ben c'est que c'est vrai. Voilà. Il y en a qui vont dire, voilà, Michel, il dit qu'il faut renoncer à l'intelligence. J'ai pas dit ça. J'ai dit que il fallait, si vous voulez quelque chose qui est impossible, et si vous réfléchissez trop, ben ça va rester impossible. Quand je me trouve devant des foules, depuis qu'il y a, je vois les gens avec des béquilles avec des aveugles et tout. Si je raisonne trop, je dis au pasteur, excuse-moi, il faut que j'aille faire pipi, puis je m'en vais, je fous le camp en courant parce que je réfléchis trop et je dis c'est pas possible, ça va pas se passer, il va y avoir... Non ! Je reste là parce que j'ai une ferme assurance et c'est pourquoi il se produit des miracles. Amen !
Amen.
C'est la vérité. L'exemple classique, le plus classique de la technique que Dieu a inventée et que nous devons utiliser se trouve dans Matthieu 9, 27 à 30. Je vous le dis. Matthieu 9, 27 à 30. Écoutez bien ça. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Il ne bouge pas, il continue son chemin, et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité, « Faites bien attention que personne ne le sache !» Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on lit ça? C'est que Jésus faisait appel à la coopération de l'esprit des aveugles. Est-ce que vous pensez vraiment que je peux faire ça? Oui, nous le croyons, Seigneur, nous le croyons. Bon, qu'est-ce qui se passait dans leur esprit? Ce qui se passait dans leur esprit, c'est que leur foi, elle était dans une grande expectative. Ils le suivaient déjà depuis un bon moment, jusque dans la maison où Jésus était là, entré, et ils avaient un sentiment, une conviction intime que quelque chose de miraculeux allait s'accomplir, que leur demande allait être exaucée. Et il en fut ainsi, Jésus leur dit, qu'il en soit fait selon votre foi, c'est-à-dire selon votre pensée qui est dans une grande expectative, avec un sentiment, une émotion, une conviction intime, avec tout ça, qu'il en soit fait selon votre foi. Et ils ont recouvré la vue. Voilà la technique que Jésus donne à ses enfants, et c'est pourquoi il dit n'en parlez à personne. Mais réfléchissez un peu. Comment voulez-vous que ces deux aveugles ne parlent pas du fait qu'ils voient? Ils ne peuvent pas vivre comme des aveugles alors qu'ils ont recouvré la vue, ils rentrent chez eux, et puis voilà qu'il va dans le frigidaire se chercher une bière, et sa femme dit Mais comment tu dis ah oui, je n'ai pas le droit de te dire, mais je vois. Tout le monde a vu qu'ils voyaient. Hein, déjà rien que leur façon de marcher n'était plus. Vous savez, les aveugles ont une façon de marcher qui est spéciale. Et ben là, ils marchaient tout à fait normalement, comme quelqu'un qui voit. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire n'en parler à personne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne racontez pas comment vous avez été guéri. Quelle a été la technique? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est produit? Ne racontez pas ça! Parce que si vous le racontez, vous allez vous trouver en but avec des esprits critiques, vous allez vous trouver en but avec des esprits sceptiques, et même vous allez vous trouver en but avec des esprits attentatoires d'incroyants. Je suis exprès de prononcer ce mot. Parce que sitôt que vous dites que vous êtes quelqu'un qui prie pour les malades, vous avez les esprits attentatoires des incroyants qui vous disent « Ouais, puis ça te remplit bien pour ton portefeuille, espèce de cochon de pourriture de saloperie. » Parce que, et puis là, je suis encore poli parce que c'est des mots pires qu'ils me disent. Ce sont des esprits attentatoires, donc ne parlez pas, n'expliquez pas comment vous faites. Pourquoi? Ça nous aurait attristé de rencontrer des personnes comme ça. Et ça aurait placé en eux des sentiments d'anxiété. Il faut dire, oui, c'était peut-être psychosomatique, je vais peut-être reperdre la vue, ou je ne sais pas, vous comprenez? Donc leur témoignage, c'est de dire, ben oui, Jésus m'a guéri, c'est tout. Point. On n'explique pas, pas de doctrine, on n'explique pas la technique. Ça, c'est des choses qu'on donne pas aux chiens, on donne pas ça aux porcs, Jésus dit. Ce sont des perles précieuses, on les donne pas à tout le monde. Ils se moquent de nous, nous aussi on se moque d'eux. Jésus les traite de porcs et de chiens. On n'explique pas ça. On n'explique pas ces choses saintes aux moqueurs, aux sceptiques et aux incroyants. C'est une connaissance qu'on garde pour nous, chrétiens, disciples de Jésus, qui veulent être initiés afin de pouvoir faire, comme Jésus a dit, des choses encore plus grandes que lui. Lisons Luc 4, 36. Luc 4, 36. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée. Ah non, je lis un peu avant, c'est verset 34. Ah, c'est le démon qui parle. Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et se disaient les uns aux autres, mais qu'est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Vous voyez, tout ce que Jésus décrétait, il savait intérieurement que c'était vrai. Il avait été envoyé par le Père pour faire ça. Et il ne s'occupait pas de ce que les incrédules pensaient. Alors s'il y a une chose dont il se moquait, c'était de ce que les incrédules pensaient. Il savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Oh, il a été tenté de douter qu'il était le Fils de Dieu. Rappelez-vous, Satan est venu le trouver au début en lui disant, mais si t'es vraiment le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Si t'es vraiment le Fils de Dieu, c'est Satan qui a essayé de le faire douter qu'il était Fils de Dieu. Et vous, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous... Quand le diable te dit, ouais, mais est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu le crois? Ou est-ce que tu crois ce que Jésus dit? Qu'il a pardonné tes péchés, que tu es son enfant, que... Qu'est-ce que tu crois que tu es? Jésus, lui, savait ce qu'il était. Et il parlait avec autorité parce qu'il savait que son Père était avec lui. Il dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père. Et moi aussi, je sais bien que c'est pas moi qui fais les œuvres. Hein, je ne fais pas les œuvres moi, quand alors, ben, tiens, j'en ai pas là sur moi, mais quand j'ai mal à la tête, je prends une insuline, hein, je suis pas malade mental non plus. Hein. Il parlait d'autorité parce qu'il savait que son Père était avec lui. Moi je sais que Jésus est avec moi, et pas de problème. C'est pas moi, je sais bien que c'est pas moi qui fais les miracles, c'est lui. Moi je suis juste un instrument pour enseigner et puis prier, c'est tout. Vous pouvez parler avec autorité si vous savez que Jésus est avec vous. Et il est avec vous. Il est avec vous si vous utilisez ces techniques et non les traditions poussiéreuses des religieux avec leurs reliques, leurs statues, leurs scapulaires, leurs médailles miraculeuses, leurs eaux bénites et tout, leurs chenilles, comme on dit en Suisse. Il est avec vous si vous utilisez ses techniques à lui. Vous voulez pas? Eh bien, c'est pas grave. Faites partie de la grande majorité des incrédules qui verront bien un jour. Hier, j'ai vu une photo d'une jeune idiote qui manifestait dans Paris et puis qui avait écrit une pancarte « Je veux aller en enfer et j'en suis fier ben, », qu'elle y aille. Moi, je prie pas pour que Dieu la sauve. Elle va aller, ben, il faut qu'elle y aille, c'est super. J'ai juste dit, Seigneur, fais avec elle ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Mais elle veut y aller. Mais qu'elle y aille. Vous ne voulez pas croire? Ben, ne croyez pas. Jésus dit, celui qui croira sera sauvé. Vous ne voulez pas croire, vous êtes perdu. Ben, allez en enfer, ce que je vous dise. C'est votre volonté. Je ne veux pas aller contre votre volonté. Je vous respecte trop. Et Dieu vous respecte trop pour aller contre votre volonté. Je prêche un peu par l'absurde là, hein. vous ne serez exaucé que si vous utilisez les techniques de Jésus. Vous pouvez aussi utiliser les techniques des sorciers africains, hein, ou voilà, hein, vous êtes libre. Moi, je ne suis pas libre, je suis esclave de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ que je veux servir. Je le sers comme mon maître. Troisièmement, il parlait avec puissance. Ça ne signifie pas qu'il hurlait comme un pentecôtiste émotionnel. Frère Osborne, il a dit, il l'a écrit, il disait, avant d'avoir rencontré Frère Branham, j'étais qu'un petit pasteur pentecôtiste dont le ministère était basé sur l'émotion et le bruit. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Vous les voyez s'exciter. Puis il y a quoi derrière? De l'excitation, c'est tout. Vous savez, si je prends mon chien là et que je lui frotte la tête, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger la queue, il va être tout content. Rien que le fait de le faire, il me regarde là. Ben, excusez-moi, mais les pentecôtistes, ils sont un peu comme ça. Vous poussez les hurler, vous les secouez, on leur imposez les mains, et puis ils sont excités, puis après, ben après ils sortent comme ils sont rentrés, quoi, il n'y a rien qui s'est passé. Je sais, je connais, j'ai été pentecôtiste, je sais ce que c'est. Mais pas me raconter d'histoire, je connais. Bon, il y en a qui sont bien quand même, hein. Faut pas cracher non plus trop dessus, il y en a qui sont très bien. Mais en tout cas, Jésus, lui, ne hurlait pas. C'est pas parce que c'est écrit qu'il parlait avec puissance qu'il hurlait. Moi, j'ai vu Raphaël. J'ai vu Osborne. Comment il parlait avec puissance? Il ne hurlait pas. Il parlait comme un homme de loi qui a la puissance. C'est-à-dire, il sait qu'il a toute la puissance de la loi qui est derrière lui. Il se trouve devant une personne mauvaise. Ce que cette personne a fait mérite une punition selon l'article numéro tant. Il prononce avec puissance et c'est ferme et c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous comprenez ce que je dis là? Eh bien, quand on parle avec puissance, c'est ça. On parle avec l'assurance ferme qu'on a toute la loi et toute la technique et la présence de Dieu avec nous, donc on parle. Moi, je voulais dire, Raphaël, au nom de Jésus, esprit de paralysie, sors de là. Et l'esprit sortait. Eh bien, je fais pareil, ça marche aussi. Vous voyez, Osborne, c'était encore plus doux. Mais c'était puissant. La preuve, les choses qui se produisaient étaient absolument extraordinaires. On a retrouvé les DVD de frère Osborne. On va se regarder pendant quelques soirs, ça nous fera du bien. Il parlait c'est avec autorité et avec puissance, c'est parler avec assurance, avec l'assurance que la loi, c'est la loi, et que les démons, les esprits de maladie, ils doivent obéir, point. Ils avaient la puissance, ils avaient la conviction silencieuse en eux-mêmes, en Jésus-Christ qui vit en vous, en eux. Est-ce que vous avez cette conviction? Est-ce que vous avez cette assurance? Cultivez-la si vous ne l'avez pas assez fort. Cultivez-la. Comment la cultiver? En allant sur un... Comment ils appellent ça? Un prie-Dieu après avoir mis... faire un signe de croix avec de l'eau bénite et puis devant la statue de la Vierge Marie ou Saint-Joseph ou Sainte-Dugule. Non. Vous cultivez l'autorité et la puissance en lisant les Écritures, parce que quand vous lisez les Écritures, ça entre dans votre pensée et ça devient vous. Et ensuite, vous pourrez aller faire ce que Jésus a fait, et même encore des choses plus grandes. C'est lui qui le dit, et si c'est lui qui le dit, c'est que c'est vrai. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles et de permettre que chacun et chacune puisse y trouver exactement ce dont il a besoin pour pouvoir déclencher les miracles autour de lui, autour d'elle. Au nom de Jésus, je prie. Merci, mon Dieu. Amen. Au revoir.